Aujourd'hui, nous allons commencer le premier message sur une série. Chaque fois qu'il y aura la Sainte Cène, je prendrai l'évangile de Jean à partir du chapitre 18. Et nous allons voir ce matin le verset 1 à 12. Je vous invite de ouvrir votre Bible et lire avec moi Jean chapitre 18, verset 1 à 12. C'est la première donc des séries pour nous préparer pour la Sainte Cène. Verset 1 du chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui chargez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi !» ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Vous savez, contrairement aux trois autres évangélistes, l'apôtre Jean ne met pas l'accent sur l'humanité de Christ en s'attardant sur ses souffrances, mais il va plutôt mettre l'accent dans le récit, selon l'évangile de Jean, l'accent sur la divinité et la majesté du Fils de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans Jean chapitre 18, verset 11, que nous venons de lire, afin de nous préparer à la Sainte Cène tout de suite après. Oui, j'intitulerai ce message « La majesté de Jésus manifestée à son arrestation ». Comment cette majesté est-elle manifestée dans ce texte? Je vois premièrement par son obéissance. Je vois après, deuxièmement, par son contrôle de toutes choses, les circonstances y comprises. Et je vois aussi cette majesté manifestée par le déploiement de sa miséricorde. Et quatrième point, par sa soumission à la volonté de son Père céleste. Sans tarder, considérons le premier point. La majesté de Jésus-Christ manifestée par son obéissance. Relisons le verset 1 du chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla vers ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Quand il parle de cela, ça veut dire sur les monts des Oliviers, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Le Cédron, c'est un lit de torrent qui descend du nord de Jérusalem jusqu'à la mer Morte. Et parler de la vallée de Cédron, il y a beaucoup de faits historique qui est rapporté là, par la Bible, hein, qui s'est passé sur le torrent de Cédron. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, et vous pouvez le lire dans 2 Samuel 15, cette histoire, où David a été trahi par son fils Absalom. Et le roi David, donc momentanément rejeté par son peuple, hein, rejeté par son peuple, et trahi par son fils Absalom, nous lisons, regardez votre Bible, 2 Samuel 15, au verset 23 et verset 30, nous lisons qu'il partait avec quelques fidèles, et au verset 23, le roi passant le torrent de Cédron pour gravir la colline des Oliviers, au verset 30, et nous lisons au verset 30 de 2 Samuel 15, il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Et nous voici, en Jean chapitre 18, plusieurs siècles après, Jésus, le fils de David, se trouvant, je dirais, dans une situation similaire que David lui-même, au moment où il a été trahi par son fils Absalom, qui voulait lui prendre le pouvoir. Oui, Jésus, le fils de David, se trouvant dans une situation similaire, rejeté par son peuple, et avec ses disciples, marchant vers l'est en direction du mont des Oliviers. Et après avoir traversé le Cédron, le torrent du Cédron, il parvint au jardin de Gethsémané, situé sur le côté versant ouest du mont des Oliviers. Oui, aussi comme David, rejeté par son peuple, trahi par son fils, dans le jardin de Gethsémané, plusieurs siècles après, Jésus était et trahi par un de ses disciples, Judas, et abandonné par tous ses disciples qui ont fui. Parlons de Judas, il y a aussi un fait qui est très intéressant, des faits très intéressants. Judas, nous lisons dans Matthieu 27, versets 3 à 10, qu'après avoir trahi le Seigneur, il ne s'est pas repenti, et nous lisons qu'il s'est pendu. Matthieu 27, 3 à 10. J'ai dit fait intéressant, mais si on revient dans l'Ancien Testament, parlons encore de David, hein, vous savez qu'il avait un conseiller déloyal, hein, qui s'appelle Achitoël, et nous lisons aussi dans 2 Samuel 17, 23, qu'il s'est pendu. Et concernant Absalom, le fils de David, hein, il s'est retrouvé coincé dans un arbre et fut tué alors qu'il y était suspendu. Et nous lisons ça dans 2 Samuel 18, 9 à 17. Comme quoi, la Bible relate ses fins tragiques à cause de leur trahison. Revenons au verset 1. Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. J'étais frappé sur cette phrase, Jésus alla. Jésus est allé dans un lieu, comme nous venons de lire dans le verset 3 et 4, qu'il fréquentait souvent avec ses disciples. C'est un endroit où Judas saurait le trouver parce qu'il connaît. Jésus est familier pour aller se reposer, être dans le calme avec ses disciples dans ce lieu, ce jardin. Donc Jésus ne voulait pas fuir. S'il aurait fui, il aurait pu se cacher et aller dans un autre endroit. Il est allé dans ce jardin que Judas connaît très très bien. Et s'il veut le chercher, il le trouvera là. Il n'a pas manqué. Oui, il est allé le chercher là. Oui, donc Jésus n'ignore pas ce qu'il va vivre dans quelques heures. Jésus sait parfaitement ce qui va se passer. Mais il se rend quand même au jardin Pourquoi? Pour obéir à la volonté de son Père. À la volonté de son Père. Et les disciples n'étaient pas ignorants de ce fait. Ils les avaient déjà avertis. Nous lisons dans Jean 12, verset 23, Jésus leur parlait, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Verset 27, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, les disciples savaient, en Jean 13, verset 1, verset 11, nous lisons avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et au verset 11, il est rapporté que Jésus connaissait celui qui le livrait, en parlant de Judas. En Luc 22, 53, il dit, il est écrit, « Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Donc Jésus savait que le moment est venu. Le temps de la puissance des ténèbres, c'est maintenant, parce que le traître est là pour accomplir cela. Donc qu'est-ce qu'on pourrait tenir et retenir en parlant de la majesté de Jésus par son arrestation? Par l'expression « Jésus est là », nous voyons l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu son Père par sa détermination à aller seul à la croix pour supporter la colère de Dieu envers les péchés du monde. Regardons aussi la majesté de Jésus dans cette situation où il est arrêté. Et nous voyons dans le verset 2 à 9, regardez toujours votre Bible, je vais le relire, Jean 18, verset 2 à 9, pardon, verset 3 à 9. Judas donc ayant pris la cohorte, et des huissiers convoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Et lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite, tu n'es perdu aucun de ceux que tu m'as donné. C'est intéressant que l'Esprit, par l'apôtre Jean, cite et commence ici, Judas ayant pris la cohorte. La cohorte est là pour signifier la présence des Romains qui se liguent aux Juifs dans la démarche contre Jésus, d'arrêter Jésus et pour le crucifier. Vous savez, on aurait pu dire cet acte de cruauté abominable commis par les Romains en complicité avec les Juifs. C'est odieux. Mais nous savons que derrière cet acte si odieux, il y a la main de Dieu. La main de Dieu. Pourquoi? Nous lisons Actes 4, versets 26 à 28, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Et écoutez bien verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Jésus savait. Il est au contrôle de tout ce qui se passe, même derrière cet acte si odieux, la main de Dieu dirige cela, parce que c'est son plan pour nous sauver. Je suis arrêté aussi par ces questions répétées à deux fois. Au verset 3, ces personnes amenées avec Judas sont venues avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et ça n'a pas intimidé Jésus. Et eux, ils venaient arrêter. Imaginez la force de ces soldats romains. Ils sont venus arrêter Jésus. Mais c'est Jésus même qui s'avance vers eux. Et vous savez, une cohorte, hein, c'est à peu près un dixième de la légion romaine. Pensez juste, ça fait à peu près 600 hommes. Ces 600 hommes, le texte ne dit pas qu'ils sont avec Judas là, mais ils sont à la disposition de Judas si les choses tournent mal. Jésus s'avança vers eux et leur demande : qui cherchez-vous ? Et quand ces foules répondent : Jésus de Nazareth, alors Jésus répond : c'est moi, je le suis. Il répète encore au verset 7 cette même question et Jésus donne la même réponse : c'est moi. C'est moi ou je le suis. Et vous voyez ici, ce n'est pas anodin quand Jésus affirme « c'est moi ». C'est exactement, il s'identifie à Yahvé, l'Éternel, qui parlait à Moïse, en Exode 3,14, qui dit « je suis celui qui suis ». Et quand il dit « c'est moi, je suis », c'est il s'applique le titre de Yahvé à sa personne en répondant à Judas et ses, toutes ces personnes qui viennent l'arrêter. Retenons juste que Yahvé, le nom ici, c'est qu'il existe par lui-même. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit, de quelque chose pour exister. Il existe par lui-même. Il est l'Éternel, il est immuable, c'est-à-dire le même hier, aujourd'hui et éternellement. Immuable dans sa parole, immuable dans sa nature, ça veut dire qu'il ne change pas. Il ne peut pas devenir pire, ni devenir meilleur, mais il est toujours ce qu'il a été. C'est ça, Yahvé. Et donc, fidèle, digne de confiance, on peut lui mettre totale confiance en lui quand il donne ses promesses. Puis encore, incroyable devant cette circonstance, hein, il nous est dit au verset 6, et c'est Jean, c'est le seul des quatre évangélistes qui rapporte ce petit détail, qu'ils reculèrent et tombèrent par terre. Ma question, mais pourquoi ces soldats reculèrent-ils et tombèrent à terre lorsque Jésus répond, c'est moi. C'est moi, celui qui je suis. L'Éternel, comme il est, s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Cela manifeste tout simplement la majesté de Jésus-Christ, son pouvoir, juste par sa parole, par ce qu'il est. Oui, la mention de ce nom, celui, je suis celui qui je suis, c'est moi, qui s'était révélé à Moïse en Exode 3,14. Hein. Je dirais, c'est un éclat foudroyant de sa gloire qui a frappé subitement ses soldats et les jeté par terre. Et comble des choses. Et quand ils sont relevés, d'une manière miraculeuse, surnaturelle aussi, le Seigneur s'est livré comme un agneau destiné à la boucherie. C'est incroyable. Il aurait pu les terrasser, terminer, l'affaire est conclue. Tomber par terre, on ne dit pas. C'est vrai, le texte ne dit pas. S'ils sont morts, s'ils sont endormis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus, quand ils sont relevés, c'est livré comme un agneau destiné à la boucherie. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Vous voyez ici la majesté de Jésus au moment de son arrestation. Sa main est sur ses ennemis même. C'est lui qui est au contrôle de tout. Judas est venu amener toute une bande à sa disposition, 600 soldats pour l'arrêter. Et c'est eux qui tombent à terre. Ça me fait rappeler au psaume 27 de David lui-même. Et peut-être Jean, inspiré par le Saint-Esprit, avait ça en soulignant qu'il reculait et tombait par terre. Psaume 27, verset 2. « Quand des méchants s'avancent contre moi, c'est messianique. » Ça s'accomplit. Maintenant, dans ces circonstances de Gethsémani, on a la personne de Jésus. « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Exactement ce que nous voyons est rapporté par Jean ici. Jésus a tout le contrôle de ce qui s'est passé. Il est dit aussi, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. versets 8 et 9. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, tout simplement, laissez les libres, mes disciples là. Et l'Esprit fait allusion à ce que Jésus avait dit quelques temps avant. C'est pour accomplir sa déclaration qu'il n'avait perdu aucun d'eux. C'est ce que nous disons au verset 4 à 9. Ici donc, Jésus a affirmé, et on voit sa protection envers ses disciples au moment de l'arrestation pour n'en perdre aucun. Donc il tient sa promesse qu'il avait formulée, je dirais, plus de temps auparavant. Regardez Jean 17, verset 12. Jésus avait dit et a prié son Père lors de cette prière qu'on qualifie de prière sacerdotale. Nous lisons verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, il parle à son Père. Les disciples étaient là, ils ont entendu. Nous lisons que Jésus regarde vers le ciel. Et les disciples étaient avec lui, entendent, ils parlent avec son Père. Ils disent, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, en parlant de son Père. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Même dans les petits détails, laissez aller ceci, c'est Jésus qui commande. Ils exécutent. Et en exécutant ces bourreaux, ils sont en train d'accomplir sans qu'ils se rendent compte une prophétie que Jésus a donnée. Jésus est au contrôle de tout, même de tous les détails. Oui, quelque chose qui est intéressant pour vous ici, parce que Jésus savait qu'une arrestation, et je dirais l'exécution, était plus, et que ses disciples n'en pouvaient pas supporter en ce moment-là. Jésus le savait. C'était trop fort pour eux. Ce n'était pas le moment. Et il disait, allez laisser aller ceci pour accomplir le fait qu'il les garde, qu'il les protège. Il l'a promis. Et Dieu le fait. Jésus l'a promis. Oui, parce que cela aurait pu risquer de briser leur foi. C'est pourquoi Jésus fit en sorte que cela ne se produise pas en ce moment de son arrestation. Nous avons fait remarquer que Jésus est au contrôle de tout. Nous venons de voir, il est au contrôle de ses ennemis. C'est pas eux qui venaient arrêter Jésus, c'est Jésus qui s'avance vers eux. Il fait le boulot à leur place, sans créer de dégâts. Et ceci en vrai aussi pour ses disciples que nous voyons ici. Je dirais exprimé d'une manière différente. Au moment de son arrestation, sa main est aussi sur les siens, manifestée par sa protection envers eux. Et je vois un encouragement pour nous ici. Vous savez, Jésus connaît que nous sommes vulnérables. Jésus sait que nous sommes faibles. Il nous protège. Nous sommes sous son abri quand on lui fait confiance. Jésus ne nous laissera jamais être tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Comme nous rappelle 1 Corinthiens 10, 13, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvé au-delà de vos forces. Jésus savait qu'en ce moment, à Gethsémané, ils n'ont pas la force d'en avoir encore plus. Et Jésus les protégeait. Mais avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, en voyant cette histoire, mon cœur est ému devant cette promesse et ce qu'il réalise chaque jour, et vous êtes en bénéfice tous les jours. Nous sommes en sécurité pour l'éternité. Quand Dieu nous a saisis en Jésus-Christ, nous sommes garantis jusqu'à l'éternité. Sa protection est envers nous. Non pas par nos propres forces, mais grâce à la protection constante de notre Seigneur, pleine grâce envers ses enfants. Quand je lis Romains 8, 31, 39, rien ne peut arriver à l'enfant de Dieu. Rien ne peut lui détacher de Jésus. Rien ne peut briser sa foi. Tout a été dosé, contrôlé par la main de notre Seigneur qui nous protège. Comment voir la majesté de Jésus-Christ pendant son arrestation? Par le déploiement de sa miséricorde, déploiement de sa miséricorde. En verset 10 et 11, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Je vois ici la splendeur de la majesté de Jésus-Christ dans la manifestation de sa miséricorde. Et je vois cette miséricorde va dans deux directions. D'abord, Jésus est en train de montrer ici, Pierre, je n'ai pas besoin de ta protection. C'est moi qui te protège. Jésus disait par ailleurs que tu sais que je peux convoquer des légions d'anges pour être délivré de la croix, Matthieu 26, versets 52-54. Et nous lisons le docteur Luc, qui rapporte dans son évangile, Jésus ayant touché l'oreille de cet homme, Malchus, il le guérit. J'ai dit d'abord que je vois la miséricorde dans deux directions. D'abord, envers Malchus. Nous lisons qu'il est un serviteur du souverain sacrificateur. Un serviteur, un esclave. Pourquoi s'inquiéter de son sort? On pourrait se demander à un esclave. Question qui se pose, est-il possible que Malchus ait mis la main sur Jésus? Le texte ne nous dit pas, nous l'ignorons, bref. Mais ce qui me frappe la miséricorde de Dieu ici, Jésus, sans tenir compte du statut social de Malchus, l'a guéri. Et cette guérison qui est le dernier miracle public de Jésus avant la croix, qui est la manifestation de sa miséricorde et de sa grâce. Mais je vois aussi la miséricorde de Dieu, non seulement envers Malchus, qui a reçu son oreille droite, mais aussi envers l'apôtre Pierre. Pourquoi? Vous savez, si Jésus ne guérissait pas Malchus, selon la loi romaine, la peine encourue, c'était l'exécution par la crucifixion. Vous pouvez regarder la loi Julia à l'époque romaine, pour tout ce qui est violence à l'ordre public, c'est la peine capitale. Et donc, derrière cet acte où Jésus montrait sa miséricorde à Malchus, il est miséricordieux aussi envers Pierre. Oui, si Jésus ne guérissait pas Malchus, Pierre pouvait être arrêté et crucifié. Pourquoi aussi? Parce que Pierre, il aurait se comporté comme un zélote. Un zélote, c'est des réactionnaires. C'est des syndicalistes religieux très réactionnaires, très violents, n'est-ce pas? Il aurait pu être, aux yeux de la loi romaine, considéré comme ça par son action. Mais Jésus, au-delà de toutes ces choses, malgré Pierre, lui a protégé par sa miséricorde en guérissant Malchus. Magnifique. Et comment la majesté de Dieu est manifestée aussi dans cette arrestation par la soumission de Jésus à la volonté de son Père. Versets 11 et 12, nous lisons, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire ?» La cohorte, le tribun, les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire ?» C'est une métaphore que Jésus utilise ici, la coupe, pour parler de ses souffrances. Oui, c'est la volonté de Dieu pour lui. Et je dirais, Pierre était averti, les apôtres étaient avertis, qu'il sera arrêté, qu'il serait mort, il ressusciterait. Déjà avant. Et donc, prendre l'épée symbolise, dans cette action de Pierre, une rébellion, une révolte contre la volonté de Dieu. Jésus est allé accomplir avec obéissance et soumission à la volonté de Dieu, mais pas Pierre, sous prétexte qu'il protège le Seigneur d'une bonne action. Mais je dirais, le zèle de Pierre et sa sincérité est là, mais sans connaissance. Je dirais, c'est courage et sincérité, mais un zèle sans connaissance. Pourtant, il était averti. Mais bon, Pierre, nous le savons. Et Pierre savait bien, Jésus, il doit se rappeler que Jésus serait arrêté, qu'il serait, se rendrait volontairement à ses ennemis. Regardez chez vous Matthieu 17, versets 22 à 23. Regardez Matthieu 20, 17 à 19. Juste Matthieu 17, 22 à 23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, nous sommes en plein ministère de Jésus, en Galilée, dans le côté nord. Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Verset 23, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera, et il fut profondément attristé. Donc, Pierre savait, il était averti. Mais, nous avons lu ce qui s'était passé. La majesté dans l'attitude de Jésus, sa soumission, il accepte la coupe, parce que c'est le Père qui l'a préparé, la lui donne. Il ne résiste pas à la volonté du Père, car il doit réaliser et achever l'œuvre qu'il lui a confiée. Je vais terminer, il y a une bonne leçon et une application pour nous ici. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais ne craignons pas les coupes que le Père nous tend aussi. Comme Jésus, acceptons de boire la coupe, non pas pour obtenir le salut, faites bien attention. Non, Jésus a déjà bu la coupe de la colère de Dieu que nous méritons par son sacrifice en donnant sa vie sur la croix pour notre salut. Mais si nous acceptons après notre salut de boire la coupe, c'est parce que nous suivrons les pas de Jésus. Nous acceptons avec joie de souffrir pour son nom. Non pas pour obtenir le salut, mais pour son nom, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ne redoutons jamais le contenu de la coupe, car le Père nous l'a préparé avec amour. Il nous l'a préparé avec amour. Je dis, la coupe qu'il prépare pour nous ne contiendra jamais rien qui puisse nous nuire. C'est préparé avec amour. Alors, nous pouvons souffrir. Nous pouvons avoir le cœur brisé. Mais tout cela finira par être transformé par Dieu à ce que cette souffrance dont nous vivons et nous traversons actuellement nous prépare pour la gloire à venir. Nous partageons le même destin que Jésus. Jésus, nous lisons dans 1 Pierre, selon les prophètes, qui doit souffrir d'abord. Et il ressuscitera pour la gloire. Et dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre fait allusion que nous partageons aussi le même destin que Jésus. Souffrance d'abord, la gloire après. Oui, le Seigneur sait une coupe que vous êtes en train de tracer, de boire. Pensez à Jésus. Pensez à cette soumission. Et c'est comme cela que nous sommes dans le repos. C'est comme cela que nous pouvons la voir avec joie. Comme Jésus disait, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Ce qu'il a dû subir, nous allons aussi le subir. Nous partageons ce destin. Mais pensons, non pas au processus douloureux, mais à la finalité de ce processus, la gloire à venir. Oui, que ces vérités préparent nos cœurs avant de nous approcher de la table du Seigneur, et que cela puisse susciter en nous comme réponse la louange et l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa majesté